franceinter.fr.
À la une de la science, donc aujourd'hui, une nouvelle forme de vie découverte au fond de l'océan Arctique.
Pendant environ 3 milliards d'années, les organismes microscopiques simples étaient la forme de vie la plus avancée. Et cette phase représente plus de la moitié de l'histoire du vivant. Mais soudain, en quelques millions d'années, soit en un clin d'œil à l'échelle de l'évolution, les organismes plus élaborés sont apparus.
Et une équipe européenne aurait donc trouvé un micro-organisme qui serait une transition entre les cellules sans noyau et les cellules complexes dont nous sommes faits, nous par exemple. Lokiarkeota, c'est son nom, mais tous les scientifiques ne sont pas forcément d'accord avec cette conclusion de cette publication sortie avant-hier dans la revue Nature. Simonetta Gribaldo et Patrick Forter, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux microbiologistes et évolutionnistes à l'Institut Pasteur. Vous êtes respectivement donc directrice pour Simonetta Gribaldo et professeur pour vous, Patrick Forter. Alors justement, Patrick Forter, où d'abord et comment ont été découverts ces micro-organismes? Expliquez-nous un petit peu. On va plonger dans l'arbre du vivant avec vous.
Oui, alors ces micro-organismes en fait sont connus depuis assez longtemps. Ils n'ont pas été découverts juste récemment. Ils sont connus depuis assez longtemps parce qu'on sait aujourd'hui détecter par leur signature moléculaire des micro-organismes qu'on n'arrive pas à cultiver. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, un petit peu de par le monde, aussi bien dans des environnements marins que terrestres, on a découvert un très très grand nombre de bactéries ou bien d'archées, le troisième domaine du vivant, que l'on ne sait pas cultiver mais que dont on peut identifier la présence. Alors maintenant le défi c'est d'arriver justement à connaître un petit peu mieux ces organismes, donc soit les cultiver, ce qui est l'idéal, soit des techniques récentes permettent dans certains cas de reconstituer leur génome.
C'est ce qu'on a fait là, on a fait une sorte de portrait robot en fait de cet organisme.
Voilà, les auteurs de cette étude publiée dans Nature ont réussi à séquencer la plus grande partie d'un génome de ce groupe de micro-organismes qui était jusque-là très mystérieux, et en partie également deux autres génomes. Donc ils ont trois génomes qui ont été identifiés à partir d'échantillons ramenés du fond de l'océan Arctique, donc de sédiments profonds.
Oui, à 3000 mètres de profondeur, je crois. Donc c'est des conditions quand même assez particulières, c'est assez hostile quand même.
C'est très froid, il n'y a pas de lumière, très peu d'oxygène, voire pas d'oxygène, et... Voilà, donc c'est des conditions assez extrêmes.
Ouais. Alors Simonetta Gribaldo, justement, ces micro-organismes sont des archées, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les archées et leur place donc dans l'arbre du vivant, auprès de nous les eucaryotes?
Oui, donc les archées sont des créatures en énigme évolutif depuis leur découverte à la fin des années 70. Donc à l'œil, à leur apparence, ils n'ont rien de très différent d'une bactérie, donc ils sont petites, sans noyau, voilà. Et par contre, quand on regarde un peu les caractéristiques de la machinerie qui est plus importante, cellulaire, qui leur permet aussi de se répliquer, par exemple, ou de produire des protéines, ça rassemble beaucoup plus à celle qui est présente chez les eucaryotes.
Oui.
Et c'est pour ça que depuis leur découverte et les premières analyses moléculaires sur ces archées, ils ont intrigué beaucoup les évolutionnistes parce que, voilà, on a dit, il y a un lien évolutif évident avec les eucaryotes.
Et donc justement, qu'est-ce que cette nouvelle espèce apporte par rapport aux anciennes espèces d'archées?
Voilà, en fait, donc cette équipe, en ayant obtenu pour la première fois ces données génomiques de cette lignée d'archées, c'est une lignée qui faisait partie d'un groupe d'archées pour lesquels, depuis quelques années, on a découvert des caractéristiques eucaryotiques qu'on pensait ne pas exister chez les archées.
Donc des caractéristiques avec les eucaryotes, voilà. dont nous sommes, donc ce sera un lien, c'est ça?
Exactement, et donc ils ont allé vraiment chercher d'obtenir plus de données de ces groupes-là, ils savaient où chercher, ils ont sorti ces données, et ça leur a permis de faire deux choses. La première, c'est d'intégrer cette lignée nouvelle dans l'arbre du vivant.
Oui.
Et ils ont vu qu'en fait, elle est particulièrement proche de la lignée qui est amenée aux eucaryotes. Et deuxième chose, ils ont trouvé dans ces génomes recomposés plusieurs gènes ou plusieurs de ces caractères eucaryotes qui ont en fait encore plus. Et donc, ça veut dire que chez les archées, on a encore des caractéristiques qui les rapprochent aux eucaryotes et de lesquelles on ne savait pas avant.
Patrick Forter, donc on imagine l'arbre du vivant, trois racines, les archées, les bactéries, les eucaryotes, et donc là, avec cette découverte,
trois domaines,
on peut faire un lien, donc c'est ça, entre les archées et les eucaryotes?
Dans l'arbre du vivant tel qu'il est présenté traditionnellement aujourd'hui, en fait, on a une racine, et puis d'un côté on part vers les bactéries, et de l'autre côté on part vers un ancêtre commun qui se sépare pour donner les archées et les eucaryotes. Donc ça, c'est, disons, depuis assez longtemps, c'est clair qu'il y a une relation évolutive proche entre les archées et les eucaryotes. On avait tendance à dire les archées sont le groupe frère. Le débat maintenant, c'est de savoir est-ce que carrément les eucaryotes ne sortent pas des archées. Est-ce que nous ne sommes pas des archées en quelque sorte,
ouais, hein, comme, c'est la question qui est posée.
Comme les oiseaux qui sortent des dinosaures. C'est la question qui est posée depuis déjà quelques temps, pas mal de temps. En fait, elle s'est posée pratiquement depuis la découverte des archées, hein, depuis les années 60. Au milieu des années 80, un chercheur américain, Jim Lake, avait déjà proposé ce genre d'hypothèse.
Et c'est cette question qui fait débat là en ce moment. Et qui fait même débat entre vous deux, par exemple. C'est-à-dire que vous travaillez dans le même labo et vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la façon d'interpréter cette publication.
En fait, ce qui fait débat, c'est les phylogénies qui sont réalisés à part les phylogénies, c'est-à-dire qu'on prend les protéines universelles conservées dans les trois grands domaines du vivant, donc des protéines qu'on va trouver à la fois chez les bactéries, chez les archées et chez nous, et chez les eucaryotes en général. On aligne les séquences de ces protéines, hein. les acides aminés homologues, on parle d'acides aminés homologues, et ensuite, avec des programmes informatiques,
on voit les points communs.
On reconstruit les arbres comme des arbres généalogiques en quelque sorte.
Et donc on peut comparer.
On peut comparer. Alors, il faut bien voir que de faire ça pour des organismes qui ont divergé, on parle là de 2 milliards d'années, mais je vous rappelle, il y a eu ces macrofossiles découverts au Gabon, 2 milliards 100, qui pouvaient être peut-être déjà des eucaryotes complexes, donc c'est peut-être 3 milliards d'années. Donc, on parle d'événements qui se sont produits il y a 3 milliards d'années. C'est extrêmement difficile de les reconstituer.
Mais ce sont nos origines, quand même.
Origines.
Donc, c'est intéressant, parce qu'on va très très loin, là.
Nos origines. Voilà, c'est l'arbre du vivant était reconstruit il y a 30 ans à peu près par Carl Woese, donc c'est quelque chose de très, assez exceptionnel. Et la découverte des archées, les trois domaines du vivant. Et depuis un certain nombre d'années, très récemment, il y a une combinaison de deux choses qui sont en fait l'obtention des données génomiques à partir de plus grande diversité, surtout de micro-organismes des trois domaines du vivant, et aussi l'utilisation de beaucoup plus de gènes, en fait, plus d'informations pour reconstruire ces arbres phylogénétiques, qui est très 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 difficile, et donc l'utilisation de stratégies beaucoup beaucoup plus poussées et qui font en sorte que depuis quelques années l'arbre du vivant change un peu de forme, les branches se remplissent, ça devient plus avec plus de branches, plus de feuilles, et en même temps ça change un tout petit peu, donc ça donne ces types de nouvelles.
Alors Simonetta Grivaldo, on peut pas encore trop en parler, mais la semaine prochaine vous allez publier une étude qui va pencher un peu du même côté que l'étude dont on parle aujourd'hui dans Nature.
Non, je pense que ça c'est sous embargo, donc on peut pas en parler.
Aujourd'hui, en tout cas, par rapport à la proposition de cette publication, vous êtes plutôt d'accord.
Je commence à penser que peut-être, j'étais très sceptique pour longtemps sur la construction de ces arbres universels. Il faut regarder les données d'une façon différente avec les nouvelles stratégies et avec ces nouveaux données. Ça aussi, ça pourrait aller dans ce sens-là.
Et Patrick Forter, vous, qu'est-ce qui vous laisse un peu sceptique finalement?
Moi, j'ai toujours du mal à imaginer qu'une archée, même l'archée qui vient d'être analysée, l'archée qui est un micro-organisme, comme on l'a dit, sans noyau, avec un petit génome compact, avec des ribosomes qui sont vraiment une machinerie qui est typique des archées, se transforme en cellules complexes.
Oui.
Mais voilà, après...
C'est votre point de divergence.
Du coup, non, Simonetta était plutôt d'accord avec moi, mais
elle s'égare un petit peu, là.
En fait, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que les phylogénies universelles, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux résultats qu'on obtient? C'est une question qui va être en débat, mais ce qui est en particulièrement intéressant là, c'est qu'on voit que, à partir de cette découverte, on voit qu'il existe beaucoup d'autres micro-organismes de même nature qui sont encore inconnus dans des environnements très très différents, et donc on va être amené à mettre en évidence dans les années qui viennent un très grand nombre de nouvelles archées plus ou moins apparentées aux eucaryotes. Peut-être un jour on pourra même trouver un proto-eucaryote, et donc ça c'est très encourageant pour nous.
Bon, en tout cas le décryptage des origines du vivant sont loin d'être terminé, il y a plein de découvertes à faire, et là donc une des dernières, toute dernière, l'Ocarchaeota, donc qui fait l'objet d'une publication. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Simonetta Grivaldo et Patrick Forter, d'être venus nous en parler aujourd'hui dans La Tête au Carré. Allez, puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des spermatozoïdes produits in vitro, c'est l'exploit que viennent d'annoncer des chercheurs de la société Calistem basée à Lyon. Ils auraient donc réussi à obtenir des spermatozoïdes humains complètement formés à partir de biopsies testiculaires effectuées sur des patients aux cellules germinales immatures. Si cette première, qui n'est pas encore publiée, est confirmée, elle ouvrirait de nombreux espoirs pour les hommes atteints de stérilité. Les gaz de schiste se retrouvent dans le robinet. Une étude réalisée en Pennsylvanie aux alentours d'un site de fracturation hydraulique a montré que l'on retrouve dans l'eau des robinets un cocktail de polluants organiques qui l'a fait mousser. C'est la première fois qu'une étude parvient à démontrer la contamination des eaux potables par les puits de gaz de schiste, ce qui pourrait remettre en cause de nombreux projets de fracturation déjà fortement contestés. Et puis Philae arrive sur les Champs-Élysées. Une maquette du robot qui s'est posé sur la comète Chury en novembre dernier va être installée dimanche, place Clémenceau à Paris. Vous pourrez également découvrir une réplique du noyau de la comète. Vous avez jusqu'au 25 mai donc pour plonger dans cette épopée spatiale sans précédent.